si vous connaissez un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une famille à Béthanie, donc de Lazare, Marthe et Marie. Et le chapitre 8 de Luc, eh bien, il y a l'histoire du semeur. Un semeur sorti pour semer. Voilà quelque chose de facile à comprendre. Néanmoins, Jésus a donné les paraboles non pas pour illustrer seulement, mais en fait pour faire en sorte que les gens ne comprennent pas. Vous allez dire, c'est simple, l'histoire du semeur, mais en fait, c'était fait pour que les gens soient plus aveuglés s'ils étaient déjà durcis. N'est-ce pas? Ça nous est dit dans la parole, concernant la parabole, que ceux qui avaient les yeux, le cœur fermé, eh bien, étaient encore plus fermés, ils ne comprenaient pas. C'était opaque. Pour nous, on a l'interprétation qui nous est donnée et aussi on a le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre et ça nous paraît si simple, n'est-ce pas? Et dans Luc chapitre 8, vous lirez tout le chapitre parce qu'il faut toujours lire dans le contexte, donc vous lirez tout le chapitre mais vous lirez tout Luc aussi, en fait tout le Nouveau Testament et puis ben, il faut comprendre le contexte du Nouveau Testament, donc il faut lire l'Ancien Testament aussi. Donc voilà. Eh bien, vous lirez l'histoire du semeur et la première illustration, c'est la semence qui est semée, la graine qui est semée sur le bord du chemin ou sur le chemin. Et là, ce n'est pas le chemin Jésus, c'est le chemin qui est illustré parce que c'est là où les gens passent et piétinent. Et le fait de piétiner le chemin, ça rend le sol très dur. Et ça rend donc impossible à la graine, à la semence de traverser, de pénétrer dans la terre. Et voilà, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas notre cas souvent d'avoir reçu la parole, enfin la parole a été semée dans nos cœurs, mais nos cœurs avaient quelque chose de dur. Quelque chose qui a fait que la parole n'a pas pénétré, n'a pas agi. Si vous interrogez quelques personnes qui évangélisent dans les prisons, eh bien, ils disent que là, les cœurs sont ouverts, la parole de Dieu pénètre dans le cœur, elle est absorbée immédiatement. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu agit dans les prisons. Pourquoi il agit dans les prisons? Parce que dans les prisons, il y a des pécheurs qui savent qu'ils sont pécheurs. En dehors des prisons, il y a des pécheurs qui ignorent qu'ils sont pécheurs. Et c'est ça la différence. C'est que le cœur de ceux qui savent qu'ils sont mauvais, qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, eh bien c'est un cœur qui est touché par la grâce de Dieu, qui devient tendre et qui reçoit la parole. Mais la semence qui a été semée le long du chemin et, ou sur le chemin, qui ne pénètre pas, eh bien, ça me fait penser aux pharisiens, aux gens qui avaient, disons, des convictions religieuses, des convictions extraordinaires. Et à cause de ces convictions, vous savez, les convictions qu'on peut avoir, elles ferment le cœur à la parole de Dieu. Elles ferment le cœur au Saint-Esprit. Et on doit faire chacun ici attention, moi en premier, à ce qu'il n'y ait pas ce durcissement de cœur. Parce que la parole de Dieu ne peut pas pénétrer si on a des convictions d'avoir raison, d'être bien, d'être sauvé, d'être juste, etc. La parole de Dieu ne va pas rentrer, ne va pas pénétrer, ne va pas faire son œuvre. Ça veut dire qu'elle va mourir. C'est pas la parole de Dieu qui meurt, mais c'est l'occasion de ce qui était donné par Dieu pour que cette parole porte du fruit dans nos vies, qui va mourir. C'est cette occasion-là qui va mourir. Et si vous lisez Luc, contrairement aux deux autres évangélistes qui ont présenté ce récit du semeur, eh bien vous voyez que Luc dit que la graine, ce sont ceux qui sont semés le long du chemin. Les autres disent la graine, c'est ce qui est semé dans le cœur. Mais là, Luc donne les deux aspects. Il dit que c'est ça, mais c'est aussi les personnes. Ça veut dire qu'il considère que la position dans laquelle on se trouve dans l'environnement, spirituel, l'environnement spirituel que l'on adopte, que l'on cherche, eh bien c'est ça qui va durcir ou attendrir notre cœur. Et si on est convaincu de justice, si on est convaincu qu'on est juste, si on est convaincu qu'on est bien, eh bien le Seigneur ne peut pas agir. Mais si ce matin vous avez le sentiment profond que vous avez besoin de Christ, eh bien étrangement, c'est vous qui avez le plus d'espoir pour une bénédiction pendant ce culte. Et il faut que le Seigneur agisse à chaque fois. Il faut que le Seigneur fasse une œuvre dans nos vies à chaque fois. Donc si notre cœur est dur, il n'y a pas d'œuvre qui va se faire d'ici midi, ça c'est sûr, dans nos vies. Mais si nos cœurs sont troublés, sont perturbés, et ne sont pas, vous savez, comme un chemin où on peut marcher ferme, mais dur, eh bien là le Seigneur va, peut agir. Et vous savez, dans cette famille de Béthanie, ils avaient beaucoup d'amis, ils étaient très admirés, ils étaient très aimés. Et ils avaient des amis pharisiens qui étaient comme ça. Et quand Lazare a été ressuscité par Jésus, c'est quand même un miracle. On devrait se réjouir, n'est-ce pas? Et beaucoup se réjouissaient, beaucoup de ces juifs et ces pharisiens se réjouissaient certainement. Mais il y en a qui ont dit, oh, ça va pas. Il faut qu'on aille se plaindre auprès des autorités juives, qu'on aille porter plainte contre Jésus. Alors je ne vous dis pas, s'il était en France actuellement, il y aurait beaucoup de dépôts de plaintes. Incitation à la haine. On donnerait que Jésus est incité à la haine quand il a dit qu'il fallait pardonner, qu'il fallait tendre l'autre joue. On trouverait que ça c'est de l'incitation à la haine parce qu'on ne connaît pas l'amour de Christ. Quand il nous dit que Il est le chemin, la vérité, la vie. On porterait plainte contre lui parce qu'il a été, il a usé de discrimination, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Et Jésus aurait tout un tas de procès. Mais il en avait sur la terre des procès. Mais il n'y en avait qu'un qui devait tomber sur lui et il le savait, il était volontaire. C'était lui qui s'était livré, n'est-ce pas, pour ça? Dans ses amis de Béthanie, de Marthe, Marie et de Lazare, il y avait des gens qui avaient le cœur dur. C'était des gens qui étaient irréprochables à l'égard de la loi, qui étaient des gens bien socialement, qui étaient des gens qui obéissaient à Dieu, donc ils étaient convaincus, vous savez, qu'ils étaient bons. Et si vous êtes reconnu par la société, par un groupe, si vous êtes dans un environnement où vous reconnaissez comme bon, comme bien, eh bien vous avez tendance à vous sentir bien. Je suis bien. Si vous faites le bien, vous passez, je ne sais pas, un long moment à prier ou à lire la Bible, vous sentez bien après. Il y a une partie qui vient de la lecture de la Bible, mais il y a aussi une partie qui vient du fait qu'on a fait quelque chose de bien, donc on se sent bien. Combien on a besoin que le Seigneur nous montre, combien on a besoin de lui toujours, qu'il nous montre notre misère, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe a eu la révélation de Dieu, eh bien, il a dit « Malheur à moi, car je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes lèvres sont impures. » On doit avoir ce sentiment, cette conviction. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que je l'ai ce matin? Que j'ai besoin de Christ. Bien sûr, on a été sanctifié, mais combien on a besoin d'être sanctifié encore, au plus qu'à la lumière. La sanctification, c'est la lumière qui vient dans notre vie. Au plus que vous mettez la lumière chez vous, au plus qu'il y a vous verrez de la poussière. Si vous ne voulez pas la voir, vous éteignez la lumière. Vous fermez les volets, il n'y a pas de poussière visible. Les gens qui marchent dans les ténèbres disent « Je suis bien, tout va bien ». Et les gens qui font le ménage disent « tout va bien », mais si on met la lumière à peu près, il y a des problèmes. Et au fur et à mesure que la lumière vient dans nos vies, elle nous montre qu'il y a des problèmes, des choses à changer. Au début de la conversion, souvent on change des choses. On cherche le Seigneur, on dit « Seigneur, il faut que tu fasses cette œuvre dans ma vie ». Puis après, avec le temps, on arrive à une asymptote, où on se dit, bon voilà, maintenant, c'est jusqu'à l'éternité, comme ça, On va se laisser aller sans changer. Quand on donne l'occasion aux gens de venir et de demander la prière pour un problème dans leur vie, il ne doit pas avoir que des gens qui sont pas encore chrétiens ou qui sont juste nouveau-nés spirituellement. Il doit avoir aussi des vieux chrétiens qui confessent qu'ils ont besoin de Christ. Je me rappelle que après ma conversion, pendant des années, le Seigneur m'a demandé, il faut que tu répondes à un appel pour ça, parce que ça ne va pas, ça, dans ta vie. Et je disais, mais Seigneur, on négocie souvent avec le Seigneur, Seigneur, je suis sauvé, les gens vont croire que je me donne encore pour la conversion. Le Seigneur m'a dit, laisse tomber, vas-y, réponds. Et ça a été des bénédictions de pouvoir répondre à ce que le Seigneur montrait dans ma vie, qui devait être changé. Et on a besoin de ça, parce qu'on est dur, parce qu'on est hermétique à la parole de Dieu. Il y a des choses qui s'absorbent très très bien, et la parole de Dieu devient dure, n'est-ce pas? Enfin, devient, rentre, pénètre en nous très difficilement. Le deuxième type de terre, c'est une terre qui est perméable, mais qui contient des cailloux, des rocs, des pierres dedans. Et c'était probablement l'expérience de Marie de Béthanie. C'était une femme aimable, extraordinaire probablement. On voit que cette famille était très aimée. Ils avaient beaucoup d'amis. Quand Lazare est mort, ils étaient entourés. Ils n'étaient pas seuls. Mais Marie, elle a quelque chose de gentil. Elle a quelque chose de très agréable. Et il semble qu'elle avait un péché ou des choses dans sa vie qui les troublaient. La parole de Dieu était semée dans son cœur, ça prenait racine immédiatement. Nous avons semé notre maison dans un coin de la toiture, un arbre qui pousse. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais c'est inquiétant, bien sûr, vous allez dire. Mais c'est quelquefois plus isolant que certains des travaux que peuvent faire certains entrepreneurs en ce moment, parce que ça isole bien finalement les racines de l'arbre. Mais voilà, nous avons un arbre. Ça veut dire que la semence peut prendre racine dans très peu de terre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est très facile à l'enlever. On l'enlève pas parce qu'on risque à faire rentrer l'eau à la place. Donc il faut que c'est un professionnel qui le fasse. Mais pas de racines, mais ça prend très rapidement vie et ça pousse. Il n'y a pas besoin de beaucoup de terre. Et dans le chapitre 12 de Jean, il nous est raconté comment Marie est venue et elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus, n'est-ce pas? Elle avait quelque chose sous le cœur. Elle avait acheté quelque chose de très cher pour Jésus. Elle a payé un grand prix. Les seuls chrétiens que j'ai rencontrés qui ont marché avec le Seigneur toute leur vie, qui ont été fidèles au Seigneur, sont ceux qui ont payé un grand prix. À l'époque du bon marché, du discount, les évangéliques ont inventé la conversion discount. Vous convertissez, vous ne confessez rien, vous continuez à vivre comme vous étiez avant, sauf que maintenant vous êtes né de nouveau. Rien ne change dans votre vie, mais vous êtes né de nouveau. Ces personnes-là ne sont pas sauvées. Ces personnes-là ne seront jamais considérées comme sauvées par Dieu. Vous allez dire, mais le salut est gratuit. L'Évangile nous dit que c'est le salut est gratuit. Bien sûr, le salut est gratuit. Parce que le prix qu'il faut payer pour notre péché, c'est l'enfer. Et ce prix-là, Dieu ne veut pas que vous le payiez. C'est pour ça qu'il vous donne le salut gratuitement. Mais est-ce que vous êtes passé par la nouvelle naissance, qui est un passage douloureux, difficile, humiliant? Est-ce que vous êtes passé par là? Ou est-ce que vous êtes comme Naaman qui a premièrement réagi en disant, non, moi je ne vais pas me baigner dans les eaux du Jourdain, il y a dans mon pays des eaux qui sont plus propres, et en effet les eaux du Jourdain étaient sales. Et il a été convaincu par ses serviteurs de faire cela, et il a été guéri de la lèpre. Et le péché guérit lorsque vous avez quelque chose qui va mal dans votre vie, et que vous le confessez au Seigneur, et que vous êtes prêt à recommencer une nouvelle vie avec lui. Mais ça impose cette prise de conscience, cette contrition. Vous avez vu David dans le psaume 51, comment il était contrit, combien il était brisé à cause de son péché. Et Marie de Béthanie, elle achète 6 jours après la Pâque. Jésus savait, je ne sais pas si c'était 1 an avant sa crucifixion ou 2 ans, mais en tout cas, il savait qu'à cette époque-là, très bientôt, il allait être crucifié. Et Marie est venue, elle a répandu. Dans la maison, il y avait cette odeur de parfum. Dans l'église, il y a l'odeur de parfum quand quelqu'un a cette attitude devant Dieu de confesser son péché, de se repentir, de dire « Je suis misérable, je veux que ça change. » Il y a une odeur de parfum extraordinaire. Le problème, c'est que souvent ce parfum n'est pas là. Et on a le parfum des justes qui ne se rendent pas compte qu'ils se sentent mauvais. Et vous savez que la plupart des gens qui se sentent mauvais pensent que ce sont les autres qui se sentent mauvais. Et les justes croient que les autres ont besoin de repentance, mais c'est eux qui ont besoin. En tout cas, son cœur était extraordinairement travaillé par l'Esprit de Dieu. La racine, les racines faibles qui ne pouvaient pas pousser parce qu'il y avait des pierres dans sa vie, les pierres ont été ôtées à l'instant même, lorsqu'elle s'est repentie devant le Seigneur, lorsqu'elle a offert ce parfum, lorsqu'elle a prophétisé qu'il allait mourir et ressusciter, les pierres sont parties, elle est devenue de la bonne terre. Mais son cœur était disposé à chercher le Seigneur. Vous savez, elle était toujours, chaque fois qu'on parle d'elle, elle est assise. Alors vous allez dire, c'est pas bien. Le Seigneur nous dit de nous lever, marcher. Ouh! Qu'est-ce qui a dit que le Seigneur nous disait de lever, marcher? Quelquefois, il dit de se lever. Quelquefois, il dit de marcher. Quelquefois, il dit de se coucher. Quelquefois, il dit de s'asseoir. Faut pas prendre un passage et dire, c'est la volonté de Dieu, c'est l'ordre pour ma vie. Faut être sûr que Dieu nous l'ait dit. Il y a des gens qui disent, le Seigneur a promis que je serai sauvé, moi et ma famille, parce que c'est écrit, le geôlier a dit, il a été dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ils disent, voilà, c'est une promesse du Seigneur. Non, 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 c'est une promesse pour le geôlier. Il y a des gens à qui le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, mais tu seras le seul dans ta famille. Il faudra tenir bon. C'est la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu a à nous dire pour nous personnellement qui compte. On ne doit pas s'approprier des choses, à moins que le Saint-Esprit nous les ait dites très clairement. Et donc, cette Marie, elle est assise aux pieds du Seigneur. Vous vous rappelez quand Jésus est invité un jour à Béthanie, et puis c'est Marthe. Alors moi, je vois Marthe, je me la représente, c'est pas bien. Mais j'arrive pas, j'imagine toujours les gens d'une certaine façon. Bien sûr, après, quand je les rencontre, ils sont pas du tout comme j'ai imaginé. Mais j'imagine Marthe grande, très maigre, très tirée, stressée. Parce que là, ce repas, quand Jésus était là, une occasion, eh bien, elle était là en train de s'énerver dans tous les sens dans la cuisine. Et Marthe était assise au pied de Jésus. Oh, Marie, pardon, merci. Marie était assise au pied de Jésus, elle écoutait la parole. Et Marthe vient voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà allée voir sa sœur plein de fois, je suis sûr, pour lui faire des reproches, ça n'avait rien changé. Elle vient voir Jésus, elle dit, cela te fait-il rien que ma sœur ne vienne pas m'aider comme ça dans la cuisine un peu? Et c'est extraordinaire parce que Jésus continue à l'aimer. Jésus ne la renvoie pas brutalement. Il lui dit simplement quelque chose qui a dû faire très mal à Marthe, mais qui a dû changer son cœur quelque part. Ce qu'il a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Autrement dit, toi, tu as choisi la mauvaise part. Tu as choisi de t'agiter. Alors on va dire, oui, mais il faut être raisonnable. Si Jésus est invité, il faut lui offrir à manger. Vous croyez que Jésus attendait que le repas soit bon? Vous croyez qu'il attendait qu'on lui fasse un repas de qualité? Le repas que Jésus avait besoin, c'est un cœur qui est assis à ses pieds pour écouter sa parole. Et si ce matin votre cœur, c'est d'écouter la parole de Dieu, d'être assis aux pieds de Jésus, vous êtes en train de lui offrir le repas qu'il aime. Ne décidez pas à la place de Jésus ce qu'il aime. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils décident que telle personne, elle aime ça, elle aime pas ça, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Quand vous interrogez la personne, il dit, c'est pas du tout ça, mais elle est convaincue que c'est ça, ou il est convaincu que c'est ça, mais c'est pas vrai du tout. Ne décidez pas à la place de Jésus de ce qu'il aime. On le sait ce qu'il aime, parce que la parole le dit, mais il y a d'autres choses qu'il aime qui doivent vous révéler. Et Marie l'avait compris. Marie, elle était assise au pied de Jésus, elle écoutait sa parole. Et Marthe était agitée. Alors moi, je vois bien sûr Marie plus joufflue, plus rondelette, plus décontractée. Et Marthe qui s'agite là dans tous les sens. Mais Jésus aimait Marthe et Marie. Et vous allez voir que si vous lisez Jean 11 chez vous, eh bien vous allez voir les paroles extraordinaires qu'elle peut prononcer sur Jésus, qui montrent qu'elle connaissait Jésus, que Jésus l'aimait. Mais là, c'est le cœur de Marie qui avait des pierres, qui ont été libérées, je pense, dans le chapitre 12. C'est pas chronologique, si vous voulez, c'est pas forcément chronologique les récits. Mais dans le chapitre 12, il est question de Marie qui verse ce parfum. Et les pierres sont ôtées, son cœur devient un cœur, une terre qui reçoit la parole, qui porte du fruit. Et elle porte du fruit encore aujourd'hui. Elle ne savait pas ça. Jésus aurait pu lui dire, tu sais, dans 2000 ans, on prêchera sur toi. Mais il savait que s'il lui disait, ça pouvait gâcher quelque chose. Elle pouvait dire, tiens, tiens, je vais m'imaginer ce qu'ils vont dire sur moi, c'est génial, je suis une star. Le Seigneur n'est pas comme ça. Jésus, comme je dis souvent, quand il faisait un miracle, il disait, ne dites à personne. Et je le répéterai, même si vous allez dire radote, vous avez probablement raison. Les évangéliques, quand ils ont quelque chose qui se passe dans leur église, ils vont tout de suite vouloir que toutes les églises autour le sachent. Et c'est dommage. Jésus, quand il a fait un miracle, il a dit « ne dites à personne ». Il permettait que ce soit dit probablement à quelqu'un qui va être touché. Mais il savait que les miracles, ce n'était pas ça qui amenait réellement les gens à Christ. Ce qui amenait les gens à Christ, c'est cette soif, ce désir de connaître Christ. Le troisième type de terrain, c'est ce terrain où il y a des ronces et des épines. Et là, je vous assure qu'au XXIe siècle, c'est ce qui se passe. Les ronces et les épines sont semées de toute façon. Et ça étouffe la parole de Dieu, ça étouffe l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Oui, l'œuvre a pénétré, le cœur était bon, la terre est bonne, mais il y a des racines, il y a des ronces et des choses qui viennent étouffer la parole de Dieu. Et c'était probablement l'expérience de Marthe, n'est-ce pas ? J'aime le Seigneur, ah oui, si on lui avait demandé, est-ce que tu aimes Jésus ? Mais oui, je l'aime beaucoup. Mais il parle un peu trop et il ne voit pas qu'il y a des choses à faire. Et elle s'énervait, agitée par les choses de la vie. Et on est tous comme ça en Occident, pris par les choses de la vie. Le Seigneur n'était pas stressé. On lui dit que Lazare est malade. Normalement, actuellement, il faut envoyer un SMS dans la minute qui suit, sinon on n'est pas bien. C'est pour ça que je me sens très très mal, parce que je mets quelquefois des mois, pour pas dire des années, pour pas dire une éternité, c'est-à-dire jamais, pour répondre à certains mails. Mais on doit répondre tout de suite. Jésus, il a mis plusieurs jours avant de réagir, avant de venir. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il n'est pas trop, il n'est pas stressé, il n'est pas pressé par des forces qui gouvernent sa vie. Vous savez que quand Marie a essayé, sa mère maintenant, pardon, a essayé de lui imposer quelque chose, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était aux noces de Cana. Mon heure n'est pas venue. Quand ses frères ont essayé de faire pression en lui disant, allez, va à la fête, va à Jérusalem, va te faire connaître. Mais ça, c'était méchant ce qu'il disait. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Et le Seigneur n'est pas stressé, il n'est pas dirigé par les pressions. Dans l'Église, il y a toujours ces pressions qui sont faites et on pourrait réagir les uns et les autres, aussi bien les anciens que les membres de l'Église. On pourrait réagir sous la pression des gens, des autres. Il faut faire ceci. Faut faire cela. Je dois faire quelque chose dans l'église, sinon c'est pas normal. Donnez-moi la référence. Si vous trouvez la parole de Dieu qui dit ça, eh bien, j'accepte, mais vous n'allez pas la trouver. On peut rien faire dans l'église. On peut être assis aux pieds de Jésus et écouter. On peut être comme Marie, mais c'est merveilleux. On n'est pas obligé de faire quelque chose. À condition qu'on aime le Seigneur, qu'on est disposé à faire ce que le Seigneur veut. Donc il n'y avait pas de stress chez Jésus, c'est dur à dire. Il n'était pas guidé par la pression extérieure, il était guidé par l'Esprit de Dieu, par son Père et par la volonté de son Père. Ça, c'est merveilleux. Et les ronces qui étaient chez Marthe, je suis sûr qu'elles sont parties. Au moment de la résurrection de son frère. Le Seigneur a utilisé ce miracle pour faire une œuvre dans la vie de Lazare, c'est sûr, mais dans la vie de Marthe et de Marie. Et elle a dit quelque chose, Marthe, quand elle a vu Jésus, parce que bien sûr, elle était la première à rencontrer Jésus. C'est normal. Elle était stressée, elle était en vadrouille autour de la maison, etc. Tandis que Marthe était assise dans la maison. Ce n'est pas en restant assis qu'on va accueillir Jésus qui rentre à Béthanie. Et donc elle rencontre Jésus, elle le voit. Et elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Il y avait ce reproche un peu. Mais il y avait aussi cette vérité. Jésus savait que c'était vrai. Mais il avait utilisé ça pour que son cœur soit touché, pour qu'elle soit transformée. Et après quelques échanges avec Marthe, elle est courue vers sa sœur. Et elle a dit une parole qu'il faut prendre pour soi aussi. Le maître est là et il veut te voir. Quelle belle parole. Et je voudrais que cette parole de Marthe soit la parole du Saint-Esprit pour vous et pour moi ce matin. Le maître est là et il veut te voir. Sachez que c'est le message de l'Évangile qu'elle avait dit. Pas de prédication, mais le message de l'Évangile était là. Si Marthe pouvait témoigner ce matin, pouvait prêcher, peut-être c'est tout ce qu'elle dirait. Le Maître est là, il veut vous voir. Et Marie avait son cœur qui bondissait parce que le Maître, elle savait qui c'était. Elle n'avait pas besoin qu'on dise, c'est qui, c'est quel Maître? Elle savait que le Maître, c'est Jésus. Elle a couru au-devant de Jésus. Elle lui a dit la même chose, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais le Seigneur a agi dans la vie de Marie. Et cet amour de Christ pour les personnalités différentes, pour ceux qui ont des ronces, pour ceux qui ont des pierres, pour ceux qui sont durs, cet amour de Christ est le même. Vous savez, quand Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un pour trouver Jésus, pour lui dire que Lazare était malade, ils ont dit de dire celui que tu aimes est malade. Et peut-être, ce matin, c'est votre rôle d'envoyer vers Jésus et de dire, Seigneur, celui que tu aimes, et vous donner le nom de la personne, est malade spirituellement. Ou celle que tu aimes est malade. Et vous envoyez ce message à Jésus. Peut-être c'est de vous dont il est question, mais peut-être c'est un proche. Et je trouve ça extraordinaire, celui que tu aimes, celle que tu aimes. Jésus aime. Jésus est amour, Dieu est amour, et il vous aime ce matin. Il veut changer votre cœur. Il veut changer votre vie. Il veut changer l'environnement dans lequel vous vous trouvez. C'est pas l'environnement physique, c'est pas l'église, la maison, le foyer. C'est l'environnement spirituel dans lequel vous vous mettez. Vous vous mettez dans les ronces. Non seulement il y a des ronces qui sont semées, mais vous y mettez en plein dedans. Vous mettez dans des endroits où il y a des cailloux, il y a des compromis. Il y a des choses qui ont été faites dans vos vies qui vous emportaient la culpabilité. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui sont cachées. Et vous mettez là, dans cette position, alors que le Seigneur vous appelle à venir avec du parfum à ses pieds et de dire, Seigneur, pardon. Je veux me repentir de ça, je veux régler. Je veux que ces pierres soient ôtées. Si vous essayez d'ôter les pierres, vous n'y arriverez pas. Ici, sur le terrain, à mesure qu'on enlevait les pierres du terrain, il y en avait qui remontaient en surface. Incroyable. Et là, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il suffit de creuser un tout petit peu, il y en a. Il n'y a pas d'arbre qui peut faire des racines profondes sur ce terrain-là, parce qu'il y a plein de pierres. Mais sous ce terrain ici, chaque dimanche, il doit se passer des miracles de pierres qui sont ôtées par le Saint-Esprit. Et chaque jour dans notre vie, il doit y avoir ce miracle, ces miracles de pierres, de ronces qui sont ôtées pour qu'on devienne la bonne terre, celle qui est travaillée par le Maître qui est là et qui veut nous voir, qui veut nous parler, qui veut nous dire quelque chose. Que le Seigneur travaille cette parole est très simple, l'évangile est simple, mais répondez au Seigneur dans vos vies. Le Seigneur vous aime, que vous ayez des ronces comme Marthe, des pierres comme Marie, que vous soyez durs comme les pharisiens. Le Seigneur aimait les pharisiens. Malheureusement, la réciproque n'était pas toujours vraie. Et ce matin, venez à Jésus et donnez votre vie au Seigneur. Afin que notre cœur soit à chacun de la bonne terre et qu'on soit placé dans la bonne terre pour porter du fruit. Et vous savez où se trouve le fruit ? On vous dira toujours, quand j'étais enfant, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, pas ici, mais dans des églises où on allait, le fruit c'est quand vous amenez des âmes au Seigneur. S'il y a beaucoup d'âmes qui se convertissent, vous avez porté beaucoup de fruits. Pas du tout. Le brigand sous la croix ne savait pas qu'il apporterait, qu'il contribuerait à ce que des âmes soient sauvées. Il est mort, ne sachant pas qu'il a pu faire quelque chose pour le Seigneur. Il n'a pas pu évangéliser, il n'a pas pu témoigner. Mais le Seigneur a utilisé cet homme et l'a sauvé. Porter du fruit, c'est porter le fruit de l'Esprit, en abondance, en abondance. Est-ce que vous portez le fruit de l'Esprit ? Est-ce que vous connaissez Galates 5, 22 ? Les 9 constituants, vous pouvez les réciter. Si c'est dans le désordre, comme tout à l'heure, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de les connaître. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez chacun des constituants de l'Esprit par la grâce de Dieu, que ce miracle s'est fait dans votre vie ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se voit ? C'est ça qu'on doit chercher. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas savoir prêcher, ce n'est pas convaincre les foules, c'est avoir le fruit de l'Esprit. C'est tout simple. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit. C'est d'être environné du Saint-Esprit, comme le dit Luc, au niveau de la terre, être dans la terre. mais c'est aussi l'avoir à l'intérieur, être rempli à l'intérieur. Et c'est le fruit de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, ne sème que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, sa parole. Et c'est le fruit de l'Esprit que l'on porte. Amen.